Radio Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans la grande édition du journal sur Radio Okapi, la radio de la paix. Pendant ces prochaines minutes, nous faisons le point sur l'actualité nationale, régionale et internationale. Voici les principaux titres. Bazouélé, l'alerte rouge à Ango. La LRA frappe encore à Balé dans la chefferie Sassa. 13 enfants enlevés, des centres de santé saccagés. L'angoisse monte à 125 km du chef-lieu. Alerte radioactive à Kolwezi. Au remblai T17, dont la concession de KCC des substances radioactives signalées, aucune zone sécurisée, des populations et des trésors artisanaux exposés pendant que l'action de l'État s'est fait attendre. Dernière parole du journal, agriculture, environnement, eau, quel enjeu pour l'avenir du Maniema? Le gouverneur Moussa Kabwankubi Moïse répond et livre sa vision autour de la conférence ouverte à Kindu. Bazouélé, l'alerte est maximale à Ango. La semaine dernière, le village de Balé a basculé dans l'horreur. Situé dans le groupement Ebalé, chefferie Sassa, à 125 km au nord-ouest du chef-lieu du territoire, le village a été frappé par une violente attaque des rebelles de l'armée de résistance du Seigneur Elera, fondée à la fin des années 1980 par Joseph Kony. Le bilan fait froid dans le dos, 13 enfants enlevés, des structures de santé saccagés. L'alerte est donnée par Save the Children et la commission diocésaine Justice et Paix de Dungu. Un nouveau drame qui remet sur la table la fragilité et la porosité des frontières nationales. Le point avec Jacques Moukonkolé.
L'horreur a frappé au milieu de la nuit entre le 3 et le 4 avril. Profitant de l'absence des militaires partis à Ango Centre pour un contrôle biométrique, des combattants de la LRA ont investi le village Balé. Selon la société civile locale, le bilan de cette incursion est glaçant. 13 adolescents, dont 9 filles et 4 garçons de 10 à 16 ans, ont été amenés de force vers la brousse. Toujours selon la même source, ces assaillants s'exprimant en Lingala et en Pazandé ne se sont pas arrêtés là. Ils ont systématiquement pillé le centre de santé des Popo, détruisant la chaîne de froid et les installations médicales avant de vider les boutiques du village. En raison de l'enclavement total de la zone et du manque de moyens de communication, l'alerte n'est parvenue aux autorités que 48 heures plus tard. Face à cette menace qui se déplace désormais vers Bili, la société civile de forces vives de la chefferie Mopoi tape du poing sur la table. Elle exige de Kinshasa une réaction immédiate. Il ne s'agit plus seulement d'envoyer des hommes, mais de doter enfin les FRDC des moyens logistiques sérieux pour sécuriser la frontière avec la Centrafrique, devenue un véritable tamis. Jacques Mkonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Après le Bazouélé, cap vers l'Ituri où l'inquiétude monte également. À Mombasa, des membres de la communauté Mamba Moussa tirent la sonnette d'alarme. Originaire de ce territoire situé à près de 165 km au sud-ouest de Bounia, ils dénoncent la recrudescence de violences dans leur entité. Ce lundi, lors d'une rencontre avec la MONUSCO, la communauté a fait part de sa profonde préoccupation face aux tueries et aux enlèvements des civils attribués aux rebelles ADF. Elle pointe aussi du doigt c'est qu'elle qualifie de lenteur, voire de manque de réactivité des forces de sécurité dans la protection des populations. Les Mamba Moussa appellent les autorités à plus de proactivité, à répondre rapidement aux alertes sécuritaires pour éviter de nouvelles attaques dans les zones forestières environnantes. Espoir Olenga, porte-parole de la communauté, s'exprime au micro de Martial Kizabiamongo.
Les ADF ont mis, que ce soit la communauté, dans une situation terrible. Il faisait presque une semaine, les ADF ont attaqué Mouchacha. De Mouchacha, ils ont attaqué Babessoua. De Babessoua, c'est un village qui se trouve à 120 km de Mombasa centre. Mais un jour après, ils vont attaquer Ndjaro à plus de 120 km de l'autre côté, au nord de Mombasa. Ça, c'est du côté de l'axe Mombasa-Dingbo. Vraiment, nous condamnons avec la toute dernière énergie ces actes macabres, surtout ignobles de ces ADF dans le territoire de Mombasa. Nous, en tant que communauté, nous faisons confiance aux institutions établies également à notre armée. Nous demandons seulement à l'armée de prendre en compte les alertes de la population. C'est pas normal qu'on alerte et que, à la fin des comptes, il n'y a aucune action qui est entreprise et deux ou un jour après, les ADF viennent frapper. Vraiment, ça inquiète la communauté. Nous continuons à faire confiance à notre armée, mais nous demandons qu'elle soit vraiment beaucoup plus proactive.
Changement de focale à présent, direction la diplomatie régionale. 9 mois après la signature de l'accord de Washington, le 27 juin 2025, entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis, le constat reste mitigé. Selon le baromètre des accords de paix en Afrique, la mise en œuvre de cet accord demeure globalement limitée, malgré un léger progrès enregistré en mars 2026. Les conclusions figurent dans le rapport publié hier lundi, intitulé « Rapport d'évaluation de la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington, mars 2026 ». La structure révèle notamment le démarrage d'engagements sensibles et prioritaires, dont les opérations de neutralisation des FDLR. Mais cette dynamique encourageante est freinée par la persistance d'une situation humanitaire particulièrement préoccupante. Les détails avec vous, Alain Hirong.
Parmi les constats positifs enregistrés du 1er au 31 mars 2026, le rapport note par exemple le lancement le 29 mars 2026 de la phase offensive de neutralisation des FDLR. Cependant, le nombre exact d'éléments ayant volontairement répondu à l'appel à la reddition lors de la phase de sensibilisation ainsi que le calendrier de la phase offensive n'ont pas été précisés. Il y a aussi la réinsertion sociale au Rwanda de plus de 200 ex-combattants des FDLR selon un rapport publié par The New Times Rwanda, constitue une évolution susceptible d'encourager d'autres redditions d'éléments encore présents dans l'est de la RDC. En revanche, indique le rapport, les principaux défis observés concernent notamment la poursuite des hostilités entre le gouvernement congolais et l'AFC M23, marquée par un recours croissant à l'utilisation des drones offensifs, comme l'indique un rapport de la MONUSCO, la déficience de la trêve dans le cadre du mécanisme de vérification élargie plus, ainsi que l'absence préoccupante de l'accès humanitaire effectif et sans entrave au profit des populations civiles.
Dans un autre registre préoccupant à Kolwezi dans la province du Lualaba, l'inquiétude monte d'un cran autour du remblai T17 au sein de la concession de la Kamoto Copper Company, KCC en sigle. Des produits radioactifs y ont été détectés, mais aucune mesure de sécurisation n'a à ce jour été prise. Résultat, les populations riveraines restent directement exposées. Une situation d'autant plus alarmante que les engagements du gouvernement annoncés en urgence se tarde à se matérialiser. Pire encore, les creuseurs artisanaux continuent de fréquenter le site exploitant des minerais au mépris total des risques sanitaires. Le point avec Paulin Munanga.
D'après les coordonnateurs de la nouvelle société civile congolaise du Lualaba, les creuseurs artisanaux sont présents au niveau du remblai T17 en train d'exploiter des minerais, mais en effectif réduit. Lambert Mendalubamba précise que jusqu'à présent, il n'y a aucun dispositif sécuritaire qui est mis en place pour empêcher les creuseurs de s'introduire dans les périmètres du site. Il signale la présence des éléments de la police au niveau du site, mais ces éléments n'empêchent pas les creuseurs de s'y introduire. Lambert Mendalubamba, coordonnateur de la nouvelle société civile du Lualaba, annonce que sa structure est en train de sensibiliser les creuseurs à ne pas se rendre sur le site T17 à cause de la présence des produits radioactifs.
Nous avons commencé la sensibilisation disant à nos compatriotes que vraiment la décision là, ce n'est pas un subterfuge, c'est une décision sanitaire. Quand l'État est saisi qu'il y a dans un site des produits radioactifs qui sont potentiellement dangereux à la santé humaine, il faut dégager. On veut préserver votre santé.
Pour rappel, le gouvernement de la République a lancé dernièrement une alerte sanitaire urgente relative à des risques d'irradiation et de contamination radioactive signalés sur ce site de la société minière KCC à Kolwezi. Et il a annoncé que des mesures seront prises pour sécuriser les sites, protéger la population et l'environnement. Lubumbashi, Paulin Munanga, Radio Okapi.
À Beni, dans le Nord Kivu, plusieurs mois après l'incendie qui a ravagé ses installations, la réhabilitation attend toujours. Le dossier s'invite désormais à l'Assemblée nationale. Le député national Jules Mumbere Maté interpelle les autorités à travers une question orale adressée au directeur général de la régie de voies aériennes déposée le 3 avril dernier. L'élu de Beni, territoire, demande des explications sur la situation actuelle à l'aéroport et sur l'arrêt de travaux de réhabilitation pourtant annoncés et engagés. Il affirme également avoir saisi le ministère des Finances afin d'obtenir des éclaircissements sur le financement de ce travaux. Jules Mumbere Maté s'exprime au micro de Grâce Amzati.
Actuellement, l'aéroport de Beni n'a plus de bureau. Donc, pour les check-in et autres formalités, on les fait à ciel ouvert. Et c'est la chose qui nous a inquiétés. Et nous en appelons au directeur général de la régie des voies aériennes de prendre ses responsabilités et de construire le plus vite possible le bureau et de les équiper, mais aussi de nous donner la cause de cet incendie pour nous permettre d'analyser si ça ne pouvait plus encore revenir lorsque on va reconstruire le bureau. Autre chose, il a quel plan pour d'autres aéroports pour qu'il n'y ait pas incendie, parce que on a presque tout perdu dans cet aéroport de Beni et nous voulons revoir le bureau, parce que je suis en train de m'imaginer si aujourd'hui là, il y a une délégation, il y a des autorités qui atterrissent à Beni, où est-ce qu'ils seront accueillis? À ciel ouvert comme ça, c'est pas quand même responsable dans une république qui se respecte.
À Calais, dans le sud Kivu, la radio communautaire de Bunyakiri investit dans l'avenir des jeunes filles. Elle renforce ses activités en faveur de jeunes filles reporters avec un objectif clair, les aider à gagner en autonomie économique tout en poursuivant leurs études dans un contexte où de nombreux parents sont fragilisés par des années de conflits. Encore élèves pour la plupart, ces jeunes filles ont mis à profit les vacances scolaires pour se former à divers métiers générateurs de revenus, des séances d'apprentissage organisées pendant les congés de Pâques clôturés samedi dernier à Bunyakiri. Reportage de Jean Kassami.
La radio communautaire de Bunyakiri RCBU a pour ambition principale de promouvoir la créativité et les savoir-faire locaux chez les jeunes filles du milieu. Simo Etechi Mihona, superviseur principal des activités.
Cette formation s'inscrit dans une dynamique d'autonomisation de jeunes filles, en particulier des filles reporters, et leur offrir des compétences pratiques en artisanat, notamment dans la fabrication des sacs, pochettes et bracelets en perles, afin donc de renforcer leur capacité à générer de revenus. Au-delà donc de ces aspects économiques, cette initiative vise également à encourager l'entrepreneuriat, mais également offrir une alternative constructive face aux risques liés à l'oisiveté.
Les apprenantes trouvent en cette initiative une bonne occasion de préparer leur avenir. Tangazo Jovial et Kubali Joséphine ont participé activement aux séances de formation.
Au lieu de rester sans rien faire pendant les vacances de Pâques, nous apprenons quelque chose d'utile pour notre avenir.
Je suis très contente de participer à cette formation. J'espère apprendre rapidement pour pouvoir fabriquer et vendre mes propres sacs. Cela peut m'aider à subvenir à mes besoins.
Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
À Kinshasa, le gouverneur de la ville annonce au public le lancement des opérations de souscription en vue de l'attribution d'étals, kiosques, magasins et chambres froides au nouveau marché central de Kinshasa, communément appelé Zando. Cette opération débutera ce mardi 7 avril 2026 sur le site du Jardin botanique de Kinshasa. Dans ce cadre, l'identification de requérants se déroulera du 7 au 20 avril 2026, chaque jour de 8h30 à 16h30. Pour être éligible à l'attribution d'un emplacement, les candidats doivent remplir les conditions suivantes: être de nationalité congolaise ou être une société de droit congolais. Pour les étrangers, disposer d'une carte de résident valide, être âgé d'au moins 18 ans, justifier de la quantité de commerçants, présenter une preuve de paiement de l'impôt foncier et ou de l'impôt sur le revenu locatif en vue de l'obtention du quitus fiscal. L'UBEFU avance vers la mécanisation agricole. Dans la province du Sankuru, le territoire vient de franchir un pas important dans la modernisation de son agriculture. 3 tracteurs agricoles arrivés dimanche ont été officiellement présentés lundi devant la maison communale de l'UBEFU par la coopérative pour le développement de l'UBEFU CODEL, une initiative portée par le député national Hippolyte Ndjongambo Ndjadi, élu de la circonscription, avec l'ambition de booster la production agricole locale. Des explications avec Esther Dalafina.
Fruit d'un partenariat entre la CODEL et le ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, ces engins marquent le passage d'une agriculture essentiellement manuelle de manioc, de riz et d'arachide vers une production mécanisée. La population a accueilli cette dotation avec enthousiasme. Pauline Pomolokoy, agricultrice.
Ces tracteurs viennent soulager nos peines et renforcer notre travail. Nous avons désormais plus d'espoir pour améliorer nos récolte.
Pour garantir l'accès aux engins, l'initiateur de la CODEL a prévu des fuites de carburant, selon Gabrielle Chaco, présidente de la coopérative.
Lors de chaque récolte, 30% de la production sera retenue et vendue pour assurer la continuité du projet.
Quant à l'entretien de ces engins, la CODEL a planifié de cette manière.
En dehors des cotisations, il y a aussi les revenus issus de la vente de 30%, sans oublier les dons de nos sponsors.
Ce nouvel appui s'ajoute aux aides déjà reçues l'an dernier par les paysans de Loubefou, constitués de semences de riz et d'arachide, des outils aratoires et vêtements distribués gratuitement. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Actualité internationale. Cécile Kohler et Jacques Paris ont retrouvé la liberté. Les deux ressortissants français détenus en Irak depuis 3 ans et demi sont libres et en chemin vers la France, a annoncé ce mardi 7 avril le président Emmanuel Macron, longtemps emprisonné puis assigné à résidence à l'ambassade de France à Téhéran depuis novembre 2025. Cécile Kohler et Jacques Paris ont quitté le territoire iranien à l'aube sous convoi diplomatique en compagnie de l'ambassadeur de France en Iran. Il se trouve actuellement en Azerbaïdjan, d'où leur retour en France est en cours d'organisation par le Quai d'Orsay. Sur les réseaux X, Emmanuel Macron a salué un immense soulagement pour leur famille et remercié les autorités omanaises pour leur rôle de médiation ainsi que les services de l'État et le citoyen mobilisés pour leur libération. Pour rappel, les deux Français avaient été condamnés notamment pour espionnage au profit d'Israël avant d'être assignés à résidence à l'ambassade de France au début novembre dernier.
L'invité.
Kindu s'ouvre au débat sur le grand enjeu du développement durable. La première édition de la conférence dédiée à l'agriculture, à l'environnement, au tourisme et à la gestion de l'eau débute ce mercredi 8 avril sur le site Luama 2 de l'université de Kindu dans la province du Maniema. Pendant 3 jours, ces assises réuniront des participants venus de divers horizons pour réfléchir aux défis et aux opportunités liées à ces secteurs clés pour le développement de la province. Quels objectifs poursuivre concrètement ce travail ? Éléments de réponse avec le gouverneur du Maniema, Moussa Kabwankubi Moïse, dans un entretien accordé à Florence Kizalunga.
Moïse Moussa Kabwankubi, bonjour.
Bonjour Madame Florence.
La toute première conférence sur l'agriculture, l'environnement, le tourisme et l'eau s'ouvre ce mercredi 8 avril. Que vise cette conférence ?
Elle vise à établir un état des lieux de tous les secteurs là que vous venez de citer. Comme on dit en médecine, pour faire une bonne thérapeutique, il faut un bon diagnostic. Donc, savoir les problèmes majeurs qui freinent la relance agricole dans la province. Comme vous le savez, jadis, la province du Maniema était le grenier agricole de l'est du pays. Alors, nous allons passer en revue les problèmes majeurs qui freinent la relance de l'agriculture dans la province du Maniema. La province du Maniema a un grand potentiel environnemental. Pourquoi, jusqu'à présent, elle ne bénéficie pas de la vente des crédits carbone? Il en est de même du tourisme. On a un grand potentiel touristique, beaucoup de sites touristiques qui ne sont pas valorisés. Il en est de même de l'eau. Beaucoup de ressources en eau, mais la desserte en eau est l'une des plus faibles du pays. Donc, nous allons passer en revue tous les secteurs, dégager les problèmes majeurs, formuler des recommandations qu'on pourra transformer en projets, chercher le financement de ces projets et améliorer ainsi la qualité des services vis-à-vis de la population.
Pourquoi alors avoir pensé à inviter aussi ceux qui sont à l'extérieur du pays pour participer à cette conférence? Vous avez quelle vision?
Alors, il s'agit d'un partage d'expérience entre les niveaux provinciaux, les niveaux centraux, même les niveaux infranationaux, c'est-à-dire les ETD. D'une part, dans le secteur public. Les secteurs privés, société civile, Fédération des entreprises du Congo, les partenaires au développement et même la diaspora du Maniema, nous asseoir, analyser ensemble, faire un diagnostic sans complaisance et proposer des solutions ensemble, proposer des sources de financement ensemble. Donc, il s'agit d'une démarche participative pour sortir notre province du gouffre.
Alors, pensez-vous qu'après avoir fait l'état des lieux de toutes ces thématiques, vous pensez que la province peut recouvrir une nouvelle robe?
Bien sûr que oui. Par exemple, pour le secteur agricole, il y a déjà des annonces qui seront faites. Nous sommes déjà sur le terrain avec les ministres d'État en charge de l'agriculture. Il y a déjà des germoires dans les territoires. Donc, pour nous, la relance agricole ne sera pas théorique. Cette année ici, nous allons déjà commencer vraiment des actions sur le terrain avec la culture pérenne du café. Il y a déjà des cafés qui sont en train de pousser. Le cacao est en train d'arriver. Donc, pour nous, nous commençons cette année 2026 avec la relance agricole dans notre.
Alors, quelle attitude que doivent adopter tous les participants durant ces 3 jours de travaux?
Une attitude responsable, parce que nous attendons beaucoup de participants, surtout qu'ils sont pour la plupart d'une très grande qualité. Nous attendons des recommandations concrètes, pas des recommandations génériques. Des recommandations concrètes, des solutions qui seront facilement mise en œuvre, pas des recommandations génériques comme je venais de le dire. Donc, nous voulons le changement de la situation et pour y parvenir, il faut bien cerner les problèmes, proposer des solutions réalistes et réalisables et chercher des sources de financement.
Vous organisez plusieurs conférences dans la province. Est-ce que vous avez l'appui ou bien l'accompagnement du niveau national?
Nous avons l'accompagnement du niveau national au plus haut niveau, comme vous le savez. Toutes ces conférences s'organisent sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, président de la République, chef de l'État. Nous demandons à la population d'Imaniema, de Kindu en particulier, de bien accueillir nos visiteurs qui seront avec nous ici pendant 4-5 jours, bien les accueillir et surtout de s'approprier les recommandations qui seront ici de cette conférence de haut niveau.
Moïse Moussa Kabankoubi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, madame.
C'était Moussa Kabankoubi Moïse, gouverneur de la province du Maniema, qui revenait sur les objectifs de la première conférence consacrée à l'agriculture, à l'environnement, au tourisme et à la gestion de l'eau, ouverte ce mercredi à Kindu. Un entretien réalisé par Florence Kizalunga. Merci d'avoir suivi la grande édition du journal de 18h présentée par Gisèle Cage. Une mise en onde de Pierre Diassinois et Dieudonné Nyangassa. Vous êtes sur Radio Capi, la radio de la paix, votre source d'information sûr, fiable et vérifié. Pour approfondir ces sujets, consulter nos reportages et suivre l'évolution de l'actualité, rendez-vous sur radiocapi.net ainsi que sur toutes nos plateformes numériques et réseaux sociaux. Très bonne soirée à toutes et à tous.